Radio 1, premier sur l'info, le journal.
Avec MCM.
Nous sommes le mardi 30 juin, le journal de la mi-journée avec Antoine Samoyau. Bonjour.
Bonjour Moreto, bonjour à tous. Deux homicides découverts en moins de 24 heures à Raiatea. Deux habitants de l'île sacrée ont été écroués ce week-end. Le premier pour avoir tué sa compagne à coups de poing et le second pour le meurtre de son voisin à coups de marteau. Nous reviendrons sur ces deux drames dans notre journal ce midi. Les autonomistes étaient réunis hier avenue Pouvana pour assister au défilé de la fête de l'autonomie. Pendant qu'Oscar Temaru et l'UPLD se réunissaient à la stèle de Tavararo dans la soirée. En somme, un 29 juin, pas si dépolitisé que ça, vous l'entendrez. Enfin, je reçois ce midi Teiva Teixotata, trésorier de l'association 193, qui viendra nous parler du rassemblement prévu jeudi devant le mémorial du nucléaire à l'occasion du 49e anniversaire du premier tir en Polynésie française.
Et on démarre donc avec cette information Radio 1, assez inimaginable d'ailleurs. Deux homicides ont été découverts en moins de 24 heures à Raiatea.
Aussi incroyable que cela puisse paraître, les gendarmes de la brigade de Raiatea ont été confrontés vendredi dernier à deux affaires d'homicides différentes en moins de 24 heures. Dans la nuit de jeudi à vendredi, tout d'abord, un homme d'une cinquantaine d'années dénommé Tamatoa Butcher passait la soirée avec des amis et buvait notamment du Como lorsqu'il s'est énervé contre sa concubine. La malheureuse jeune femme âgée de seulement 20 ans a été alors littéralement rouée de coups de poing et de coups de bâton par son compagnon. Elle est décédée sous ce déchaînement de violence. L'agresseur a été arrêté vendredi par les gendarmes de Raiatea, placé en garde à vue. Il a été présenté samedi à un juge d'instruction et mis en examen pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Une information judiciaire visant les témoins de ce drame a également été ouverte pour non-assistance à personne en danger. Tamatoa Butcher a ensuite été placé en détention provisoire à la prison de Nutania.
Mais dans la même journée, de vendredi, les gendarmes de Raiatea ont également découvert le cadavre d'un vieil homme.
Visiblement, l'homme était décédé depuis plusieurs jours. Il a été identifié comme étant un habitant de l'île, âgé d'une soixantaine d'années, retraité et bénéficiaire d'une pension d'invalidité Cotorep. Mais l'attention des gendarmes a surtout été retenue par des plaies au niveau de la tête de la victime. Après autopsie, les enquêteurs ont découvert que le vieil homme avait été frappé par un objet contondant et ont également découvert un marteau non loin de la victime. Ils ont alors rapidement porté leurs soupçons sur le voisin du vieil homme, Sébastien Taeaetoa, lui-même disparu de la circulation depuis plusieurs jours. Et le voisin en question n'était d'ailleurs pas un inconnu de la justice. Ancien détenu, il avait été condamné à 16 ans de réclusion criminelle pour l'assassinat d'un commerçant de Raiatea en 1995. Les gendarmes ont donc diffusé son signalement et Sébastien Taeaetoa a été retrouvé dimanche à Bora Bora. Placé en garde à vue, il a avoué avoir tué son voisin à coups de marteau avant de s'enfuir de Raiatea. Pour autant, le meurtrier n'a pas donné d'explication rationnelle pour expliquer son geste. Hier, il a été mis en examen pour meurtre et placé en détention à Nutania. S'agissant d'un meurtre en récidive, il encourt tout de même 60 ans de réclusion criminelle.
On revient à présent sur la fête de l'autonomie qui s'est déroulée hier à Papeete.
Et l'avenue Pouvana n'a pas désempli hier de 15h à 16h30. Des dizaines d'associations, de clubs sportifs, de représentants des communes et des confessions religieuses ont défilé à l'occasion du Hiva Veve. Plus de 10 000 personnes ont ainsi paradé devant le public et les officiels. Le défilé était organisé, je vous le rappelle, dans le cadre de la 31e fête de l'autonomie, célébrant la mise en place du statut de 1984 en Polynésie. Et à l'issue de la manifestation, le président Édouard Fritsch a tenu à insister sur l'importance du dynamisme de cette vie associative en Polynésie pour encadrer la jeunesse.
On l'a toujours dit, on l'a toujours répété, la politique de la jeunesse de ce pays ne peut réussir qu'avec l'appui des associations. Mais vous avez vu qu'au-delà des associations civiles, que ce soit dans le sport, que ce soit dans les animations de jeunesse, il y a un appui important aussi des associations, des confessions religieuses. Même les présidents de certaines confessions ont défilé. Ceci veut dire effectivement que nous comptons beaucoup sur ces associations pour construire la jeunesse de ce pays. Une jeunesse qu'il faut effectivement bien encadrer puisque nous avons, comme dans les autres pays, des problèmes d'emploi, nous avons de la délinquance. Donc, en d'autres termes, nous avons besoin de tout le monde pour les encadrer, pour les faire s'épanouir dans une Polynésie heureuse.
Et si Édouard Fritsch avait annoncé vouloir dépolitiser sa première fête de l'autonomie cette année, la forme est restée pourtant assez semblable aux festivités de l'année dernière. Le défilé d'associations paradait devant une tribune centrale composée d'officiels, au premier rang desquels se trouvaient le président Édouard Fritsch, le haut-commissaire Lionel Beffre, le président de l'Assemblée Marcel Touyani et les anciens présidents Gaston Tongsang, Jacky Tewira et même Gaston Floss. Pour autant, Édouard Fritsch assure vouloir changer le ton de cette fête pour la rendre à la population.
Ce que je voulais surtout, c'est que le Hiva Vavin ne soit pas la fête que de quelques-uns, que des hommes au pouvoir, que d'une majorité. Donc j'ai commencé par inviter tous les pastes présidents. Je veux donner un autre ton à cette fête, parce que le politique, je crois, n'a pas le droit de s'accaparer ce genre d'événement. Parce que lorsque nous venions, nous, les autonomistes au pouvoir, c'était le succès. Lorsque les indépendantistes étaient au pouvoir, plus rien ne se passait. C'est pas normal, parce que c'est une démonstration de force. Depuis 2 ans, la population réclame cette fête. La population veut que le 29 juin, ça soit aussi sa fête à elle.
Comment ça vous a surpris de voir Gaston Flosse présent ce midi?
Non, c'est bien. Moi, j'étais sûr qu'il allait venir. Nous avions un petit problème de calendrier parce qu'effectivement, il a été averti assez tardivement. Mais non, on ne peut pas. En vrai autonomiste, on ne peut pas bouder ce genre de manifestation. Et je suis heureux parce qu'en fin de compte, tout le monde se met un petit peu au-dessus.
Et après avoir longtemps hésité la semaine dernière, Gaston Flosse était donc finalement de la partie au titre des anciens présidents du pays. Jamais avare d'un petit tacle envers son ancien fils spirituel, le leader du Tawhira précise néanmoins avoir été invité très tardivement par les organisateurs. Écoutez.
Ben, j'ai reçu l'invitation que ce matin. Alors, je devais pas venir, mais bon... comme c'est l'autonomie et c'est la fête du Tahoeira Huiratu et de toute la population, j'ai accepté. Alors que les autres anciens présidents ont reçu leurs invitations à partir de lundi, mardi, mercredi. Et ce n'est que ce matin qu'ils ont dit, purée, il y a peut-être un Gaston Flosse aussi qui a été président du gouvernement. Oh, ça c'est...
C'est un oubli volontaire, votre avis ?
Oh, évidemment.
Et pendant ce temps-là, les indépendantistes commémoraient eux aussi leur 29 juin.
S'il avait décliné l'invitation à venir assister au défilé du Hiva Veve, le leader indépendantiste Oscar Temaru s'est une nouvelle fois recueilli devant la stèle de Tavararo à Faa, ceci pour commémorer la date anniversaire de la signature du traité d'annexion de la Polynésie à la France, le 29 juin 1880. Comme chaque année, le Tavini et plusieurs composantes de l'UPLD ont répondu aux célébrations de la fête de l'autonomie à Papeete par une cérémonie de deuil à Faa. Devant près de 200 personnes, les ténors du parti Bleu Ciel, Myron Matawa, Anthony Géros, Richard Truyava et Oscar Temaru se sont succédés à la tribune pour rappeler l'historique de leur combat pour l'indépendance de la Polynésie. À l'issue de cette cérémonie, le leader de l'UPLD est notamment revenu sur l'absence de réaction de la France depuis la réinscription de la Polynésie sur la liste des pays à décoloniser de l'ONU il y a 2 ans.
C'est la politique de la chaise vide, c'est l'histoire qui se répète, c'est ce qui s'est passé pour l'Algérie. La France a adopté la même attitude jusqu'au moment où la France a été obligée devant la communauté internationale d'accepter la lutte du peuple algérien et l'organisation donc du référendum en juillet 1962 et les accords d'Évian.
Dans l'après-midi, le président Édouard Fritch avait regretté l'absence d'Oscar Temaru invité au défilé de la fête de l'autonomie. Et pour affirmer sa volonté d'ouverture et de rassemblement, le président du pays avait d'ailleurs glissé qu'il pourrait bien lui-même assister à la cérémonie du 29 juin à Faa l'année prochaine. Réaction assez amusée d'Oscar Temaru, écoutez.
Ah ben, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et donc, la prochaine fois, je l'inviterai à venir à Faa. Parce que c'est la vérité de notre histoire. On ne peut pas faire autrement. Le contenu de ce statut d'autonomie mérite réflexion. Parce que nous savons ses limites. Et nous savons également que notre pays est une collectivité d'État. Nous avons un président du gouvernement de la Polynésie. Le président de la Polynésie, c'est M. François Hollande. Donc nous sommes un pays, un peuple qui cherche désespérément un président.
Une pause dans ce journal, il est midi 9. On revient pour accueillir notre invité. Puis on parlera, il va également. Retour au journal, Antoine, et on reprend avec notre invité de l'association 193 de défense des victimes du nucléaire.
Et ce jeudi 2 juillet, cela fera très exactement 49 ans que le premier tir nucléaire français aura été testé dans le Pacifique. Les différentes associations de défense des victimes du nucléaire organisent donc une commémoration cette semaine devant le mémorial situé au bas de l'avenue Bouvana. Ce midi, je reçois Teva Teixeira, le trésorier de la jeune association 193, Teva Yorana.
Yorana.
Alors l'association 193 s'est montée assez récemment, elle a 1 an, vous me le disiez tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette association ?
Eh bien, c'est cette envie de commémorer ces tirs, cette histoire qui s'est passée en Polynésie. Et donc, c'est une histoire qu'on ne peut pas oublier. Et aujourd'hui, nous voulons absolument que cette histoire soit dite et redite pour les générations futures.
Alors elle est bien présente cette histoire, on en parle régulièrement, notamment à travers des indemnisations des victimes du nucléaire devant les juridictions administratives. Jeudi, il y a un rassemblement qui est donc prévu devant le mémorial au bas de l'avenue Pouvana. Qu'est-ce qui est prévu exactement pour cette journée?
Alors, pour ce rassemblement, nous nous rassemblons avec plusieurs associations, telles que Mururoa et Tato, bien sûr, que tout le monde connaît, le collectif Puhio, la WILF, la Ligue internationale des femmes.
Voilà, les droits des femmes, exactement, avec Tita Opeu.
Voilà, l'association Oparo de Rapa. Et donc, nous allons commémorer le premier tir qui a été réalisé le 2 juillet 1966. À la stèle de la place Jacques Chirac.
Alors ça va se passer à quelle heure exactement? Tout le public est invité, j'imagine, aussi à venir se rassembler.
Alors ça commence à 16h, le début, l'accueil commence à 16h. Nous aurons des discours de présidents d'associations, de différentes associations. Nous aurons également une convention de partenariat de l'association 193 avec l'association Mururoa et Tato, suivi de discours, d'une pose d'une pierre et l'échange de drapeaux.
Il y a une volonté de se fédérer, de se rassembler dans les associations de défense des victimes du nucléaire, on voit par cette convention, pardon.
Bien sûr, c'est un combat qui nous unit, donc nous voulons que la vérité avance, que justice soit faite et que la mémoire, pareil, soit encore remémorée.
Qu'on se souvienne, en tout cas. Le mémorial devant lequel se déroulera justement cette manifestation, il a été finalement conservé par Édouard Fritsch. On se souvient que l'année dernière, Gaston Flosse voulait le déplacer. Est-ce qu'il est plus facile, avec ce nouveau gouvernement, pardon, de parler de la défense des intérêts des victimes du nucléaire?
Écoutez, je pense que oui, puisque le bail, me semble-t-il, a été reconduit. Le bail de concession a été reconduit avec Mururoa et Tato.
Pour 9 ans, c'est ça, au sens symbolique. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez du discours de l'État qui évolue vers une sorte de discours un peu décomplexé sur le nucléaire? On se souvient des propos de l'amiral Alain Kuller qui disait qu'il fallait arrêter de psychoter avec le nucléaire.
Alors, je pense que le chiffre avancé de 12 milliards parle de lui-même. Comment dépenser une telle somme alors qu'il n'y a aucun risque? Je pense que voici la question, hein, pourquoi engager cette somme alors que, soi-disant, il n'y a aucun risque?
12 milliards, on le rappelle, hein, qui ont été dépensés pour la construction de la base ville de Mururoa qui a été inaugurée ce week-end. L'année prochaine, c'est donc le 50e anniversaire du premier tir. Il y a des manifestations spéciales auxquelles vous pensez déjà pour l'instant?
Alors on y pense, hein, c'est en projet. On a beaucoup de manifestations, en tout cas de rassemblements qui visent à informer la population justement suite à ces essais. Et donc nous allons y travailler. Après le 2 juillet, justement.
Dans le courant de cette année. Voilà. Teva, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à toi. Nous suivrons évidemment sur Radio 1 le déroulement de cette journée de commémoration jeudi prochain.
Et on termine ce journal avec notre série consacrée au Heiva qui s'achève aujourd'hui.
Le Heiva Tahiti 2015 démarre le 2 juillet prochain, c'est très bientôt, Place Toata. 17 groupes de danse et 22 groupes de chant seront présents cette année. Et depuis une semaine, Radio 1 vous détaille chaque jour une épreuve du concours. On termine aujourd'hui en beauté avec la récompense la plus attendue, celle du meilleur groupe de danse. Cette année, ils seront 17 groupes à tenter de remporter cette récompense suprême. Tous seront soumis aux mêmes critères de notation et devront respecter les mêmes règles, 200 danses au maximum, une représentation d'une durée comprise entre 45 et 60 minutes et l'apparition d'un OTA et d'un Apalima. Les chorégraphes sont libres de composer avec ces critères comme ils le souhaitent, mais pour le vice-président du jury et chef de groupe Matani Kainuku, c'est le thème qui doit donner le ton du spectacle. Écoutez.
Pour ceux qui souhaitent innover et apporter de la création dans l'exécution des pas, il faut absolument que ça rende service au thème. On ne fait pas des pas pour faire des pas. On ne met pas en avant la technicité au détriment de la langue. Je redis encore une fois, il faut que le pas, il réponde au thème. C'est l'écrit qui va guider les pas. Si le texte, par exemple, parle d'une tortue, il y a plutôt intérêt à inventer un pas de tortue. Donc, moi, je crois que, quel que soit le choix du chorégraphe, il faut surtout qu'il soit en lien avec la langue. Être membre du jury, c'est bien sûr être aussi mathématicien. On va regarder les formes géométriques, on va regarder les alignements. Mais pourquoi les alignements sont si importants? C'est très simple. En étant aligné, on crée cette cohésion de groupe. Et gagner, c'est être en cohérence avec le thème et en cohésion avec l'autre.
Mais selon Matani Kainoku, il y a un autre atout indispensable pour espérer gagner, et ça c'est l'émotion.
Il y a un volet qui est en lien avec les émotions. Est-ce que l'ensemble du groupe projette des émotions particulières? Lesquelles? Est-ce que nous sommes touchés par le spectacle ou pas? Donc c'est assez subjectif. En jury danse, nous sommes quatre, donc nous aurons quatre manières de regarder le spectacle. Celles qui vont me toucher essentiellement, ce seront celles qui vont avoir pour impact que, dans un premier temps, j'ai été convaincu du message, et dans un second temps, ce message peut être porté au niveau de la génération future. Un spectacle qui n'a aucun effet sur la population dans le futur, pour moi, ne sert à rien. Donc, réussir à respecter un règlement tout en créant des surprises, moi, je pense que ça, c'est important.
Voilà, et je vous rappelle que vous pouvez retrouver sur notre site radio1.pf et notre page Facebook les 7 capsules de cette surprise spéciale Heiva, préparées tout au long de la semaine dernière et donc aujourd'hui par Tamara Sentis.